Dr Ted Hildebrandt, OT Histoire, Lit. Et Théologie, Conférence 22. Symbole Copyright 2020, Dr Ted Hildebrandt. Vidéo dure environ 27 minutes avant la fin. Voici le Dr Ted Hildebrandt dans son cours d'Ancien Testament, d'Histoire, de Littérature et de Théologie, leçon 22, sur le livre de 1 Samuel, Élie, Samuel et le sélection de Saül comme premier roi d'Israël. Rôle de Samuel, prophète, prêtre, juge et faiseur de roi entre minuit et 4h24. Nous avions terminé le livre des juges et nous avons dit cela comme la fin du livre des juges pointée vers Saül par l'intermédiaire de la concubine du Lévite. Nous avons dit que le livre de Ruth pointe vers David. Ces deux rois d'Israël vont donc entrer en jeu dans un Samuel. Samuel, Saül et David seront les grands personnages du livre de 1 Samuel. Maintenant, pourquoi Samuel est-il si respecté? Ce type est l'une des personnes les plus respectées de l'Ancien Testament. Il s'avère que si vous regardez le chapitre 15 de Jérémie, permettez-moi de lire ceci dans le livre de Jérémie. Maintenant, Jérémie est des centaines et des centaines d'années plus tard, Jérémie a probablement environ 600 ans avant J.C., Samuel a probablement environ 1100 ans avant J.C., donc il y a environ 500 ans de différence. Les gens se souviendront-ils de vous pendant 500 ans? Voici, 500 ans plus tard, ce que Jérémie a dit à propos de Samuel, et l'Éternel me dit, « Même si Moïse et Samuel se tenaient devant moi, mon cœur ne s'ouvrirait pas vers ces gens et ne les renverrait pas loin de ma présence. Même si Moïse et Samuel se tenaient devant moi, dit Dieu, je ne les écouterai toujours pas. » À propos, Moïse est-il le grand intercesseur pour son peuple à l'époque de l'Ancien Testament, Moïse dans le désert? Moïse et Samuel sont ici regroupés par Jérémie. C'est donc très intéressant, Moïse et Samuel. Ce sont deux personnages énormes, et on dit que Samuel est avec Moïse à ce niveau. Samuel va être le dernier des grands juges. Donc, avec Samuel, nous en sommes probablement à environ 1100 avant J.C., je ne veux pas que vous connaissiez sa date exacte, mais c'est environ 1100 avant J.C. La date que nous connaissons est David, c'est quoi? David 1000 avant J.C. David va être un jeune enfant. Samuel est donc le dernier des grands juges. C'est aussi un prêtre. Il est livré à Élie et élevé comme prêtre. Il sera prêtre au service du tabernacle de Dieu. Il est aussi prophète. Il parle pour Dieu. Quel est le grand message du prophète? Le grand message du prophète est, ainsi parle l'Éternel. Le prophète parle pour Dieu. Il dit habituellement, « Repentez-vous ». Mais le prophète dit, « Ainsi parle l'Éternel ». Donc Samuel va être prophète, prêtre et quand je dis prophète, prêtre, et qu'est-ce qui vient après? Prophète, prêtre et roi. Votre cerveau ne devient-il pas prophète, prêtre et roi? Mais il est prophète, prêtre et juge. Pourquoi est-il juge? Parce qu'il n'y a pas quoi, en Israël en ce moment. Il n'y a pas de roi. Samuel sera celui qui sera le premier faiseur de roi. Dieu va finalement choisir les premiers rois, mais Samuel, au niveau humain, choisira et oindre d'huile le Messie les deux premiers rois d'Israël pour Dieu. Alors Samuel va oindre Saül et ensuite il va oindre David. Samuel va être impliqué là-dedans. Une énorme transition s'opère actuellement en Israël. Cette transition se fait de la période des juges à la royauté. La royauté va durer quoi? Combien de temps Israël aura-t-il des rois? Et il régnera pour toujours et à jamais. La royauté est donc en train d'être établie maintenant avec Samuel. Samuel va initier cela et il va oindre les deux premiers rois d'Israël, Saül, David. Les rois vont continuer. Jésus-Christ lui-même sera appelé fils de David dans la royauté sur Israël. Une royauté ou une monarchie est donc en train de s'établir ici. C'est un moment vraiment important dans l'histoire d'Israël. B. Paternité et modèle littéraire de 1 Samuel entre 4h25 et 7h26. Maintenant, Samuel a-t-il écrit le livre de Samuel? La réponse est, non. Samuel est mort au chapitre 28, et d'après ce qu'on m'a dit, c'est assez difficile d'écrire quand on est mort. Il est donc mort dans 1 Samuel 28. Le livre parle donc de Samuel, pas nécessairement écrit par lui. Ce type avait probablement des notes. Samuel avait probablement des journaux intimes, des journaux et des choses que les gens qui ont écrit ce livre auraient très bien pu travailler à partir du récit prophétique qu'il avait, mais en ce qui concerne l'écriture, il est mort au chapitre 28, donc il n'écrit pas au-delà de ce point. Maintenant, voici le modèle littéraire. Nous avions un modèle littéraire dans le livre des Juges et voici le modèle littéraire pour le livre de Samuel. C'est en fait similaire. Tout d'abord, vous avez la disparition d'un ancien leader. Il y aura donc un vieux leader, le vieux leader du livre de Samuel sera Élie. Il y aura la disparition de l'ancien leader. Le vieux chef va être méchant et s'en aller. Ensuite, Dieu choisira un nouveau leader. Au départ, l'ancien chef était Élie, puis Samuel sera le nouveau chef. Le nouveau leader prendra donc le relais et il y aura une succession de dirigeants. Ce changement de dirigeant a lieu, dans un cas, entre Élie et Samuel, puis de Samuel à Saül, et de Saül à David. Alors ce qui se passe, et c'est important, que doit faire le nouveau leader dans un Samuel? Il le fait à chaque fois, le leader doit remporter une victoire militaire. Ainsi, une fois que le nouveau chef a été choisi par Dieu, la première chose qu'il fait est de remporter une victoire militaire. Cela arrivera, d'ailleurs, David est un roi au chapitre 16. Devinez ce qui se passe au chapitre 17. Quelle est la grande victoire de David? Tout le monde dans la salle le sait. Quelle est la grande victoire de David? Goliath. Il est donc un, CH 16, et alors quelle est la première chose qu'il doit faire? Il doit remporter une victoire militaire. Ainsi, David bat Goliath dans le chapitre suivant, CH 17, après avoir été oint. Vous obtenez donc ce lien entre la sélection et l'acte qu'il accomplit. Alors que se passe-t-il? Il y a des problèmes avec le nouveau leader. Saul a des problèmes, David a des problèmes, Samuel a des problèmes, et fondamentalement, la disparition d'un ancien leader et tout cela revient en arrière. C'est donc essentiellement ainsi que fonctionne le livre ici. Le docteur Borgeman, qui a écrit un livre sur David, et en fait j'ai une conférence publiée par le docteur Borgeman, qui note que dans le livre de Samuel il y a tous ces échos. En d'autres termes, le livre de Samuel dit plusieurs fois la même chose. Il y a donc ces échos dans le livre, et vous devez écouter ces échos ou ces répétitions qui sont dans le livre de Samuel. La répétition est l'une des clés pour comprendre un Samuel. Nous verrons cela au fur et à mesure, mais c'est la structure de base. C'est le cycle de Samuel, décès d'un vieux dirigeant, naissance de Samuel 7, 27-14, 31. Qui est notre premier cycle? C'est notre premier cycle Samuel. Alors passons en revue cela. Notre premier cycle est la disparition de l'ancien leader. 1 Samuel chapitre 1, notre ancien chef est Élie. Élie est un prêtre du Dieu très haut. Où les prêtres exercent-ils leur ministère à cette époque? Les Juifs n'ont pas Jérusalem parce que Jérusalem ne sera prise qu'à l'époque de David. David sera celui qui prendra Jérusalem. Jérusalem appartient actuellement aux Jébuséens. Alors, où est installé le tabernacle avec Élie? Est-ce que quelqu'un se souvient du nom du lieu? Shiloh. Il y a un endroit appelé Shiloh. Le tabernacle fut érigé pendant quelques centaines d'années à Silo. Élie est donc le prêtre de Silo dans les chapitres 1 et 2. Et puis il y a une femme nommée Anna. Ma mère disait toujours, chaque fois qu'elle se mettait vraiment en colère, alors aide-moi Anna. Il y a un mari nommé Elkana et il a deux femmes. Avons-nous déjà vu cela, un mari avec deux femmes? Oui, nous avons déjà vu cela. Souvenez-vous de Jacob avec Rachel et Léa. Ici, nous avons à nouveau deux femmes. L'une s'appelle Anna, l'autre Peninna. Qui a tous les enfants? Peninna a tous les enfants. Anna ne peut pas avoir d'enfants. Est-ce un problème dans le monde antique? Nous avons vu l'histoire de la femme stérile. Avons-nous vu cette histoire encore et encore? Elkana a donc cette femme Anna, il l'aime, mais elle ne peut pas avoir d'enfant. Elle a le cœur brisé, elle veut avoir des enfants et il est dit que l'Éternel lui avait fermé le ventre. Sa rivale, Peninna, l'a provoquée pour l'irriter. Or, Elkanah, le mari d'Anna, n'est pas l'homme le plus intelligent du monde, ni le couteau le plus tranchant du tiroir. Voici ce que dit Elkanah à sa femme. Sa femme est complètement désemparée, elle ne peut pas avoir d'enfant, sa rivale l'encourage, l'irrite jusqu'au bout. Alors Elkanah vient voir Anna et il veut lui dire quelque chose de vraiment réconfortant, et voici ce qu'il dit, écoute ce type, Elkanah, son mari lui disait, Anna, pourquoi pleures-tu, pourquoi ne pleures-tu pas? Mangez. Avez-vous remarqué ce qui se passe? Elle est désemparée. Combien de personnes, lorsqu'elles sont désemparées, ne mangent pas? Ils remarquent qu'elles ne mangent pas. Est-ce l'un des signes de dépression qu'une personne ne mange pas? Alors il s'en rend compte et dit, « Pourquoi tu ne manges pas? Pourquoi es-tu découragé? » Et puis il fait cette déclaration, « Ne compte-je pas plus pour vous que 10 fils ?» CF Ruth 4.15. Quelle est la réponse à cette question rhétorique? Bien sûr que non. Je veux les 10 fils. Est-ce que je ne compte pas plus pour toi, Anna, que 10 fils? Non, vous ne devriez donc pas poser ce genre de questions. Vous ne posez tout simplement pas ce genre de questions. Donc ce type est un peu à côté, il aurait dû mieux connaître sa femme et c'est une mauvaise question à poser. Alors Anna fait alors ce vu au chapitre 1 verset 11, « Ô Éternel Tout-Puissant, si seulement tu regardes la misère de ta servante et si tu te souviens de moi, et si tu n'oublies pas ta servante, mais si tu lui donnes alors un fils, vérifiez ceci, je donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et aucun rasoir ne sera jamais utilisé sur sa tête. » À quoi a-t-elle consacré son fils dès sa naissance? Oui, c'est un vu nazaréen. Samuel sera-t-il nazaréen dès sa naissance? Maintenant, qui est l'autre naziréen de naissance que nous connaissons? Samson. Au fait, Samuel va-t-il être grand et fort? Non, mais il est dédié au Seigneur dès sa naissance. Sa mère dit qu'aucun rasoir ne lui passera sur la tête. Maintenant, voici le problème, Élie, qui est le prêtre, la voit prier Dieu, et écoutez quelle est la réaction d'Élie, tandis qu'elle continuait à prier l'Éternel, Élie observait sa bouche. Verset 13 du chapitre 1, Anne priait dans son cœur et ses lèvres remuaient mais sa voix n'était pas entendue. Élie pensait qu'elle était ivre. Et il lui dit, « Jusqu'à quand vas-tu continuer à t'enivrer? Se lever. Débarrassez-vous de votre vin. » Élie la réprimande. Cette femme ouvre son cœur à l'Éternel. Alors Élie saute sur son dossier et dit, « Tu es une femme ivre et sors d'ici. » Tu es ivre et tu ne devrais pas être dans le tabernacle du Seigneur. C'est vraiment ironique, n'est-ce pas qu'Élie réprimande Anna? Eh bien, permettez-moi juste de dire pourquoi c'est ironique. Élie reproche à Anna d'être ivre, mais que faisaient les propres enfants d'Élie? Est-ce qu'ils s'amusaient avec les femmes devant le tabernacle? Donc, je suppose, avez-vous déjà vu un parent projeter le mal de ses enfants sur d'autres enfants? Je pense que ce que dit Élie, il sait que ses enfants s'amusent avec ses femmes, ont un comportement immoral dans la zone du tabernacle, et donc il pense qu'elle fait partie de ces femmes immorales qui sont ivres et qui ont des ennuis dans le tabernacle. Alors il la réprimande. Mais il s'avère qu'elle est vraiment juste. Est-elle plus juste, dans un certain sens, que lui? Alors il projette ce que font ses propres enfants sur Anna et c'était faux. Dieu vient et donne un fils à Anna. Le nom du fils est Samuel. Samuel est un beau prénom. Vous connaissez ce premier mot, vous vous souvenez? Que signifie Shim? Est-ce que quelqu'un se souvient de Shim Israël? Deutéronome 6.4. Écoutez, exactement, entendez. Shim signifie donc entendre. Entendu parler, et quelle est la dernière partie de son nom? Entendu parler d'elle, ou elle a écouté. Qui est-elle? Elle est Dieu. Dieu a écouté point. Alors, que signifie le nom de Samuel? Dieu a entendu, Dieu a écouté, Dieu a entendu sa prière et lui a donné Samuel. Donc, Dieu a écouté, c'est un beau nom, Samuel. Ainsi Samuel est nommé et Dieu a écouté et a donné ce fils à Anna. Anna le consacre alors au Seigneur en le livrant à Élie. À propos, qui d'autre a fait un vœu à Dieu et aurait pu lui remettre son enfant? Cela ressemble-t-il un peu à Jephté? Rappelez-vous que Jephté a fait un vœu et il peut y avoir là un parallèle intéressant. Les fils de Déhéli, Ophni et Phiné 14, 32-17, 21. Maintenant, les fils d'Éli, qu'avons-nous appris sur ces gars-là, les fils d'Éli? Il y a deux gros problèmes dans ce qu'ils faisaient. Il y avait des prêtres sous Éli, Éli serait le principal grand prêtre. Ses fils Ophni et Phiné arrachaient la viande lorsque les gens apportaient des sacrifices. Les prêtres ont-ils pu manger un peu de viande? S'il s'agissait d'une offrande de purification, ou s'il s'agissait d'un sacrifice d'expiation ou de culpabilité, les prêtres pouvaient y participer. S'il s'agissait d'un holocauste, les prêtres ne l'obtenaient pas parce qu'il était entièrement brûlé pour l'Éternel. Mais ses enfants, chaque fois qu'ils voyaient un sacrifice, ils se disaient, eh, c'est l'heure du steak, nous allons manger. Alors ils ont enfoncé leur fourchette et ont pris la viande qu'ils voulaient et ont totalement souillé le sacrifice de Dieu. Tout le monde le savait. Lorsqu'ils apportaient leur sacrifice à Dieu pour leurs péchés, les prêtres les arrachaient. Cela a donc totalement souillé le système sacrificiel de Dieu. Ils commettaient également des actes immoraux avec les femmes près du tabernacle. Alors ces femmes apportaient des offrandes et très vite les hommes essayaient de les faire aller au lit. Donc c'était vraiment mauvais. Maintenant, c'est encore pire que cela parce que dans les religions païennes, il y a le culte de Béol et le culte d'Acharé. Le culte de Béol était un dieu de la fertilité. Vous souvenez-vous de Béol dans l'Ancien Testament? Béol était un dieu de la fertilité. Une partie du service d'adoration de Béol consistait en ce qu'un homme entrait chez la prêtresse et que la prêtresse était logée dans le temple. Le gars deviendrait prêtresse, si elle concevait et qu'elle était fertile, il y a toutes sortes d'images ici. En fait, je ne veux pas que vous pensiez aux images, je veux que vous réfléchissiez aux idées. Mais si le gars entrait et imprègne la prêtresse et qu'elle est fertile, cela signifie que sa terre serait fertile. Voyez-vous la similitude? C'était un rite de fertilité et il pratiquait ces rites de fertilité en Israël. Au fait, est-ce plutôt immoral? Cela faisait partie du culte de Béol, est-ce vraiment dégoûtant? Mais vous voyez l'idée, le gars voulait que sa terre soit fertile donc il allait voir la prêtresse et il y avait ce genre de relation sympathique ou symbiotique entre ce qui se passait avec la femme et ce qui se passait avec sa terre. Donc ce que vous avez ici est en quelque sorte une reproduction de la même chose dans la cour du tabernacle avec Israël, ce qui est totalement contraire à ce que voulait Jéhovah Dieu. L'enfance de Samuel entre 17h22 et 18h29. Contrairement à Ophni et Phiné, les fils d'Éli, vous avez cette merveilleuse déclaration au chapitre 2 versets entre 25 et 26, permettez-moi de lire cette déclaration. Qui me vient à l'esprit lorsque je lis cette déclaration? Les fils d'Éli, cependant, n'ont pas écouté les réprimandes de leur père. Car c'était la volonté du Seigneur de les mettre à mort. Et le jeune Samuel grandissait en stature et en grâce auprès du Seigneur et auprès des hommes. Est-ce que quelqu'un se souvient, permettez-moi de relire ceci, de qui également cette ligne est-elle dite presque mot pour mot? Et le jeune Samuel continuait à croître en stature et en faveur auprès du Seigneur et auprès des hommes. Quelqu'un se souvient-il du chapitre 2 de Luc où il est dit, Jésus grandit en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes? C'est presque exactement la même expression qui est utilisée à propos de Jésus. Il est utilisé ici pour Samuel. C'est donc plutôt intéressant, Samuel est une bonne personne. Il grandit et grandit en faveur du Seigneur et des hommes. Éli en tant que père entre 18h30 et 19h41. Maintenant, comment se porte Éli en tant que père? Il s'avère qu'Éli, en tant que père, semble être un homme faible et il semble être un père faible. Ses fils faisaient le mal, et il ne les empêchait pas de le faire. C'est un père faible et il a de mauvais fils. Maintenant, je veux examiner ce genre de relation père-fils telle qu'elle se déroule dans le livre de Samuel. Quand j'étais plus jeune, j'ai étudié le livre des Proverbes, j'étais un jeune père, au milieu de la vingtaine et j'ai eu mon premier enfant. Je ne savais vraiment pas ce que c'était que d'être père, alors j'ai décidé que j'allais faire mes travaux universitaires et étudier le livre des Proverbes. Pourquoi ai-je étudié les Proverbes pendant la majeure partie de ma vie? Parce que les Proverbes sont, comme un père parle à ses enfants. Alors je voulais être un bon père. Je pensais que je serais un bon père et que cela me garantirait de bons enfants, n'est-ce pas? Si je suis un bon père, alors mes enfants s'en sortiront bien parce que je suis un bon père. Je veux juste en exposer une partie, j'ai beaucoup grandi depuis, mais je voulais juste le souligner. Nous y reviendrons, mais Élie était un père faible. J'ai l'appel de Samuel entre 19h42 et 24h38. Qu'en est-il de l'appel de Samuel? L'appel de Samuel au chapitre 3 est une belle histoire. L'un d'entre vous enseigne-t-il aux enfants à l'école du dimanche? C'est une belle histoire d'école du dimanche. Samuel dort dans son lit, Élie, le prêtre, dort dans son lit, et tout d'un coup le Seigneur vient vers Samuel la nuit et lui dit, « Samuel, Samuel !» Samuel se réveille et dit, « Waouh !» Élie a appelé et alors il se rend en camion chez Élie et lui dit, « Élie, qu'est-ce que tu veux ?» Élie dit, « Je ne t'ai pas rappelé, retourne te coucher. » Les enfants se lèvent-ils parfois la nuit et quand quelque chose leur fait peur et tombe sur leurs parents? Combien de fois nos enfants, quand nous avons eu du tonnerre et des éclairs dans l'Indiana ou des tornades et tout d'un coup les enfants, zoom, ils sortent de leur lit et vous vous réveillez et vos enfants rampent partout sur vous parce qu'ils sont effrayés. Alors Élie le renvoie. Samuel, Samuel. Samuel se réveille à nouveau et tombe sur Élie. Élie, qu'est-ce que tu veux? Je ne t'ai pas appelé. D'ailleurs, quand on est parent, est-ce que les enfants vont te réveiller en pleine nuit? Oui. Cela fait partie du jeu, à moins que vous ayez des enfants fortement sous-sédatifs. Non, ne fais pas ça. Sérieusement, certains enfants sont différents, certains enfants dorment toute la nuit, d'autres vous empêcheront de dormir toute la nuit à plusieurs reprises. Je vous souhaite ceux qui dorment toute la nuit, c'est tout à fait différent. Quoi qu'il en soit, finalement la troisième fois, Élie comprend et dit, « Je n'appelle pas ce gamin. Ce doit être Dieu qui l'appelle. » Alors Élie se tourne vers lui au chapitre 3, et Élie réalisa que l'Éternel appelait le garçon. Chapitre 3, verset 9, « Alors Élie dit à Samuel, « Va te coucher, et s'il appelle, tu dis, « Parle Seigneur, car ton serviteur écoute. » Comprenez-vous le jeu de mots ici? Comment s'appelle Samuel? Écoute. Il y a donc ici un jeu de mots sur le nom de Samuel. Parle Seigneur, car ton serviteur écoute. Celui qui a entendu Dieu est maintenant celui qui écoute. Alors Samuel alla se coucher à sa place. Le Seigneur est venu et s'est tenu là, appelant comme il le faisait ses autres fois, Samuel, Samuel. Samuel dit, Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Le Seigneur dit à Samuel, « Maintenant c'est intéressant et c'est lourd. » Dieu parle à Samuel. « Vous voyez, je suis sur le point de faire quelque chose en Israël qui fera frémir les oreilles de tous ceux qui l'entendront. À ce moment-là, j'exécuterai contre Élie tout ce que j'ai dit contre sa famille du début à la fin. Car je lui ai dit que je jugerai sa famille pour toujours à cause du péché qu'il connaissait. » Ses fils se sont rendus méprisables et il n'a pas réussi à les retenir. L'un des rôles d'un père est-il de retenir ses enfants? Oui. Vos parents peuvent-ils vous retenir? Combien d'entre vous se sont faufilés et ont fait des choses dont vos parents n'avaient aucune idée de ce que vous aviez fait? Il est jugé ici parce qu'il n'a pas empêché ses enfants de faire ce mal en présence du Seigneur. Car je lui ai dit que je jugerai sa famille pour toujours à cause du péché qu'il connaissait. Ses fils se sont rendus méprisables et il n'a pas réussi à les retenir. C'est pourquoi j'ai juré à la maison d'Élie que la culpabilité de la maison d'Élie ne sera jamais expiée par un sacrifice ou une offrande. Maintenant, tu es le petit garçon Samuel. Qui t'élève? Élie est ton beau-père, c'est le prêtre. Est-ce que vous admirez ce gars qui vous élève? Samuel l'admire. Il est son héros et maintenant, le lendemain matin, quelle est la première chose qu'Élie va demander? Et, Samuel, Samuel, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Voudriez-vous être le petit garçon Samuel disant à Élie que Dieu dit, Élie, ta famille est grillée. C'est fini. Voudrais-tu être un petit garçon en faisant ça? Au fait, est-ce pour autant le rôle d'un prophète? Et bien sûr, le lendemain matin, Élie se lève et Samuel répond, « Me voici », et il dit, « Que t'a-t-il dit ?» Il est dit au verset 17 qu'Élie a demandé, « Ne me le cachez pas, Dieu vous traitera toujours très sévèrement si vous me cachez quelque chose. » Alors Samuel le révèle et lui dit que lui et la famille d'Élie appartiennent au passé à cause de ce qu'il a fait. Élie est donc rejeté, ainsi que ses deux garçons, Ophni et Phiné. Dieu sélectionne maintenant un nouveau leader. Le nouveau chef est Samuel. Ce petit garçon Samuel est appelé de Dieu. C'est un appel de Dieu. Vous savez, nous parlons de vocation et d'appel de Dieu. C'est l'appel de Dieu de Samuel et c'est vraiment un appel plutôt intéressant. Il y a ce genre de sensation de petit enfant. D'ailleurs, les petits-enfants peuvent-ils s'identifier à cette histoire? C'est une belle histoire pour les cours de l'école du dimanche et pour les petits-enfants, même pour les adultes. H-Contexte géographique, travail cartographique 24, 39-26, 49. Maintenant, la disparition d'un ancien leader, vous avez Élie, que se passe-t-il maintenant? Il sait qu'il appartient à l'histoire, mais avant d'en arriver au tableau, je veux juste dire qu'il y a une carte qui s'affiche ici, et je veux en quelque sorte tracer le territoire pour cela. Tout d'abord, voyez-vous Shiloh ici? Les Philistins vont être ici, dans la plaine côtière. C'est la plaine philistine au bord de la mer Méditerranée. L'image est inversée dans une manière de penser juive. Voici la mer Méditerranée, les Philistins vont être ici, les Juifs sont dans les montagnes. Voici Shiloh. Shiloh est-il vraiment bien protégé? C'est là que sera le tabernacle de Dieu. Au fait, qu'est-ce qu'il y a ici? Jérusalem est à peu près au sud. Voyez-vous cet itinéraire qui passe juste ici? C'est ce qu'on appelle la route des Crêtes. Elle va du nord au sud depuis Jérusalem, jusqu'à Bethléem, jusqu'à Hébron et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle la route des Crêtes. Shiloh est-elle un peu en dehors de la route? Un peu comme Grapevine Road ou Gordon College. C'est un peu en retrait de la rue principale. Shiloh est-elle vraiment bien protégée par les montagnes? Les Philistins sont ici, les Philistins doivent-ils traverser les montagnes pour arriver à Shiloh? C'est donc très bien protégé. Shiloh est là, c'est là que se trouvait le tabernacle pendant quelques centaines d'années. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont faire sortir l'arche de Shiloh et ils vont la faire emprunter cette route. Cela existe réellement à ce jour. Ils vont le ramener à Aphek. C'est à Aphek que se trouveront les Philistins, et ils vont se battre ici, dans la plaine côtière des Philistins. Mais qui aura l'avantage lorsqu'ils combattront dans les plaines? Les Philistins. Les Philistins vont donc s'emparer de l'arche de Dieu ici. C'est là que Ophni et Phina, les enfants d'Élie, vont mourir ici même à Aphek. Il va y avoir une bataille, et elle aura lieu ici-bas. L'arche va être perdue et ils vont la transporter jusqu'aux villes des Philistins. C'est donc en quelque sorte le scénario de bataille. Les Juifs sont en sécurité dans les collines mais ne le sont pas dans la plaine des Philistins. Il va y avoir une bataille là-bas. Voilà donc un peu la géographie. Et la disparition d'un vieux leader, Élie 26, 50-30, 22. Maintenant, après le décès d'un vieux dirigeant, ils retournent en arrière et ils vont combattre les Philistins. L'arche va donc être capturée ici et perdue au profit d'Israël. Ils sortent l'arche, et quand j'étais plus jeune, je pensais qu'il avait tort de sortir l'arche pour combattre les Philistins. Ils avaient peut-être tort, en partie, mais Israël a-t-il déjà sorti l'arche pour combattre auparavant? Lorsque nous étions dans le livre de Josué, est-ce que quelqu'un se souvient d'une bataille qu'il a eue là où l'arche ouvrait la voie? Oui, quand ils se promenaient dans Jéricho. L'arche les faisait faire le tour de Jéricho une fois par jour pendant 7 jours et 7 fois le 7e jour. L'arche les conduisit au combat. Ils avaient donc la priorité pour faire cela depuis Josué et il s'avère que Saül lui-même fera sortir l'arche et l'emmènera au combat. Ainsi, dans le livre de Samuel lui-même, ils font cela à nouveau en emmenant l'arche au combat. Le problème, je pense, avec cela, c'est l'idée selon laquelle Dieu est dans une boîte. Quelqu'un a-t-il déjà vu les aventuriers de l'arche perdue? Tout d'un coup, vous ouvrez l'arche et tout le monde fond, c'est des effets spéciaux, à la manière d'Indiana Jones. Alors ce qui va se passer, c'est qu'ils sortent l'arche et pensent qu'ils ont Dieu dans cette boîte. Si nous sortons cette boîte, alors Dieu devra se battre pour nous car Dieu est de notre côté. Nous avons Dieu captif dans cette boîte. Dieu est dans cette boîte, donc Dieu doit être de notre côté. Ce que je suggère, c'est, Dieu est-il captif de cette boîte? Et la réponse est non. Je me demande parfois combien d'entre nous, moi y compris, pensons à Dieu comme dans une boîte, mais maintenant que Dieu est dans la boîte de notre esprit, Dieu est de notre côté. Pouvons-nous toujours être assurés que Dieu est de notre côté? De quel côté Dieu est-il? Dieu est-il du côté de Dieu? Tu sais ce que je dis. Donc nous ne pouvons pas manipuler Dieu, je pense que nous nous sentons à l'aise et que nous construisons des boîtes dans lesquelles nous mettons Dieu dans notre esprit, et nous nous sentons à l'aise avec Dieu dans notre esprit. Nous pensons à Dieu d'une certaine manière et nous nous y sentons à l'aise. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime ce cours parce que tout le monde est habitué au Dieu amoureux qui est au ciel et aime tout le monde et a un plan merveilleux pour sa vie. Dieu est tout simplement miséricordieux, bon et gentil, et ensuite vous lisez l'Ancien Testament. Tout d'un coup, c'est, wow. Dieu fait quoi? Il a juste fumé ses gens. Vous avez le terrain ouvert et vous dites, sainte vache. Est-ce réellement un Dieu différent de l'Ancien Testament au Nouveau Testament? Ou est-ce le même Dieu? Puis tout d'un coup, vous pensez que c'est peut-être un Dieu différent. J'aime ce cours car il vous permet de voir comment Dieu éclate de la boîte. Il ne rentre pas dans ce joli petit ours en peluche américain que nous avons au paradis. Tout d'un coup, vous réalisez que Dieu est un vrai Dieu, il y a une chose qui s'appelle la justice. Il y a une chose appelée sainteté. Ces choses comptent et il y a de grandes choses qui se passent et elles ne sont pas toutes bonnes. Dieu n'est pas toujours de notre côté pour ainsi dire. Je pense que c'est une erreur vraiment dangereuse à commettre. Donc sortir Dieu de la boîte de notre esprit, je pense, nous souffrons en quelque sorte des mêmes façons de penser. L'arche est capturée par les Philistins 30:23-32, 26. Ce qui se produit. L'arche est capturée au chapitre 4, verset 18. Ophni et Phiné, les deux garçons d'Élie, sont tués au combat. Les deux fils d'Élie sont donc tués au combat, et un messager court des Afek jusqu'à Silo. Élie est un vieil homme, il ne va pas au combat et il est apparemment lourd aussi. Ils viennent voir Élie et le messager lui dit ceci, au chapitre 4 verset 18, « Lorsqu'il parla de l'arche de Dieu, Élie tomba à la renverse de sa chaise, près de la porte, son cou fut brisé et il mourut car il était un homme âgé et lourd, qui dirigeait Israël depuis 40 ans. » Élie était-il vraiment une mauvaise personne? Je veux dire qu'Élie n'était pas une mauvaise personne, il semble être un père faible par rapport à ses fils. Ses fils faisaient de très mauvaises choses et il aurait dû les arrêter, mais il ne l'a pas fait. Il a dirigé Israël pendant 40 ans. Ses fils meurent. Est-ce un problème? Le père doit-il toujours mourir en premier, avant les enfants? C'est l'ordre naturel. Autrement dit, le père meurt en premier. J'ai été confronté à cette situation il y a un an dans cette même salle, dans ce contexte, mon fils était en Afghanistan. Je lui ai donné conférence après conférence, et je lui ai dit qu'il mourrait en premier. Je lui ai dit que le vieil homme mourrait en premier, non. Alors ne vous faites pas d'idée sur le fait d'être un héros là-bas. Je veux que tu reviennes vivant. Le vieil homme passe en premier. C'est moi, et pas lui. Est-ce que cela fait vraiment très mal à un parent lorsque son enfant meurt? Tu sais ce que je dis. C'est comme si le parent devait mourir en premier, c'est comme ça que ça devrait être. Nous avons vraiment eu du mal avec ça l'année dernière. Il est revenu, maintenant il est de retour en Amérique. Il a des membres, beaucoup de ses copains ne sont pas revenus comme ça. Beaucoup d'entre eux ne sont pas revenus du tout, enfin ils sont revenus mais dans une boîte et pire que ça. Kaïkebad 32, 27-35, 37. mais de toute façon, c'est juste intéressant ici, Élie entend parler de ses fils, et n'a pas de grande réaction mais quand il entend parler de l'arche, il tombe à la renverse. Le père et les fils meurent donc le même jour. Élie est donc désormais hors de la scène. Qui va prendre la relève maintenant? Qui est prêt à prendre la relève? Élie n'est plus sur scène, ses fils sont tous partis. Eh bien, nous avons un petit garçon que nous devons d'abord faire entrer ici. Son nom est Ichabod. Dès que je dis Ichabod, quel est le prochain mot auquel vous pensez? Ichabod Crane, oui, tout le monde pense ça. Ichabod. Il s'avère que la femme de Finney était enceinte lorsqu'il partit à la guerre. Est-ce que cela arrive souvent, des hommes partent à la guerre, une fille tombe enceinte et un homme part à la guerre? Le gars est tué, maintenant le gamin n'a plus de père. Je veux dire, est-ce que ça arrive ici en Amérique, maintenant? Oui. Alors Finney s'en va, et Finney est tué. La femme va alors avoir un garçon, mais ce qui se passe, c'est que la mère meurt également en cours d'accouchement. Au fait, dans le monde antique, les femmes mouraient et elles en couchent. C'était assez, je ne veux pas dire très courant, mais c'était assez courant. En Amérique, maintenant, ce n'est pas vraiment un problème, mais dans le monde antique, beaucoup de femmes mouraient en couche CF Rachel. Alors elle meurt en couche, maintenant elle expire, l'infirmière lui dit, ne désespérez pas, vous avez donné naissance à un fils, et elle n'a pas répondu et n'a pas prêté attention. Elle est en train de mourir. Et elle a nommé le garçon, Ichabod. Itch signifie, nom. Chabot signifie, gloire. Pas de gloire. La gloire est partie. Alors elle nomme cet enfant, la gloire est partie. Voyez-vous qu'il y a ici aussi une sorte de double sens. La gloire est partie, veut-elle dire que son mari est mort au combat? Probablement. Son mari est mort au combat, la gloire est partie. La gloire a-t-elle également disparu dans le sens où l'arche a été perdue au profit des Philistins? La gloire de Dieu a été supprimée. Il s'agit donc ici d'un double jeu. La gloire est partie, ce qui signifie la mort de son mari, mais cela signifie aussi que l'arche a été perdue et c'est probablement le plus significatif. Quand j'étais jeune, je suis allé dans une véritable église baptiste fondamentaliste conservatrice. L'un d'entre vous est-il déjà allé dans une église où l'on expulse le pasteur? Donc ils sont en train d'expulser ce pasteur et ça devient assez intense, le pasteur arrive ensuite au sermon et il fait sortir tout le monde de l'église. Il y a environ 300 personnes dans l'église et tout le monde est dans la rue près de l'église et il se tient devant eux et dit, ils vont écrire Ichabod sur cette église dans 10 ans. Maintenant, que voulait-il dire par là? La gloire est partie. Il appelait à la disparition de cette église. Si vous me chassez, toute cette église va tomber parce que je suis le grand. C'est probablement une bonne chose qu'il se soit débarrassé de lui, mais ce que je dis, c'est que c'est vraiment arrogant, ils vont écrire Ichabod sur cette église. Vous pouvez juste voir l'arrogance qui transparaît. Que l'église ait eu raison ou tort, dans ce cas-ci, elle avait probablement raison en faisant ce qu'elle a fait. Elle les Philistins et l'Arche 35, 37-41, 38. Maintenant, que se passe-t-il? Les Philistins récupèrent l'Arche. Quel est le problème avec l'Arche? Eh bien, il va y avoir un problème avec l'Arche. Je vais vous présenter maintenant, si je vous ai dit le mot, pentapole, c'est un mot grec, pentapole. Penta signifie, 5, comme pentagone, penta signifie, 5. Poli veut dire quoi? Ville. Vous avez donc une pentapole, ce sont les 5 villes. Ce sont là les 5 villes des Philistins et ce sont des lieux célèbres, encore aujourd'hui. Si je montre celui-ci ici, c'est Gaza. Vous avez tous entendu parler de Gaza, de la bande de Gaza avec laquelle Israël a eu tant de problèmes. Il y a tellement de conflits avec Israël à ce jour, Ashdod, Ashkelon, Gaza, Gaza et Ekron sont les autres. Ce sont les 5 villes philistines célèbres. Ce que je veux faire, c'est juste vous montrer une carte. À propos, vous pouvez télécharger ces cartes sur PowerPoint. Voici la mer Méditerranée. Joppé est l'endroit où se trouve Tel Aviv aujourd'hui. C'est donc Tel Aviv. Notre première place était Ekron. La bataille a eu lieu ici à Afek. C'est là que l'arche a été capturée. Ils descendirent ici vers Afek et les Philistins prirent l'arche. Ils transportèrent l'arche dans cette direction vers les cinq villes philistines. Ekron est une seule ville. Guess est le prochain. Au fait, vous connaissez tout quelqu'un de Guess? C'était un très grand type, Goliath de Guess. Goliath était de Guess, et c'est là que se trouvait la ville natale de Goliath. Ce sont les deux, Guess et Ekron, remarquez qu'ils sont plus proches d'Israël, vers les montagnes. Ils sont toujours dans les plaines mais plus près des montagnes. Et puis il y en a trois sur la côte. Deux internes et trois externes sur la côte. Le premier est Ashdod. Ashdod est ici, il y a du sable qui passe par ici. Maintenant, quand vous regardez où se trouve Ashkelon, où est Ashkelon? Est-ce juste sur la côte? Ashkelon se trouve ici juste sur la côte, que savez-vous de la mer Méditerranée? Si vous allez en Israël, c'est ici que vous voulez aller nager. Il y a de belles plages de sable blanc, l'eau est à environ 72 degrés. Ce n'est pas comme la Nouvelle-Angleterre, il n'est pas nécessaire de s'habituer à l'eau. Vous entrez et il fait une température idéale, les vagues arrivent et vous pouvez faire du body surf. À propos, la région de Boston est reliée à Ashkelon. L'université de Harvard a fouillé des restes de Philistins ici pendant des tonnes d'années, et Stager à Harvard a fouillé pendant une longue période à Ashkelon. Cela vous donne un peu le mal du pays. Le seul problème, c'est qu'Harvard, je crois, et mon dernier souvenir d'Ashkelon, c'est que Harvard s'en est sorti. Je pense qu'une université à l'ouest de Chicago l'a récupérée. Une école, je n'aime pas prononcer leur nom mais c'est Wheaton College. Je pense que John Manson et le Wheaton College ont succédé à Harvard et mènent des fouilles à Ashkelon. Donc si vous voulez un bel endroit sur la côte pour nager, la seule chose est que vous devez faire attention aux missiles en provenance de Gaza, mais c'est une autre histoire, désolé. Gaza est ici. Alors voyez-vous, c'est Gaza, Ashkelon, Ashdod. Ces trois-là sont sur la côte. Qu'est-ce qui passe par ici? Pourquoi les Philistins ont-ils été si brillants en installant leur ville ici? Parce qu'est-ce qui s'en vient sur cette route-ci? Cette route vient d'où? Qu'y a-t-il ici, au sud? Égypte. L'Égypte est-elle le grenier du monde antique? L'Égypte va envoyer toutes ses marchandises en Mésopotamie. Ils vont arriver juste par cette route. Quand il y a des villes sur cette route, cela signifie-t-il de l'argent? Oui. En d'autres termes, les gens expédient des choses. Est-ce que certains d'entre vous viennent de New York? Vous l'avez eu à New York, vous avez installé un péage. Avec un péage, vous gagnez de l'argent. Donc ce qu'ils ont, ce sont des péages qui s'installent ici et cela va rapporter énormément d'argent aux Philistins grâce au commerce, je plaisante. Presque tout ce qui vient d'Égypte arrive ici. C'est ce qu'on appelle la Via Maris ou Coastal Highway. Cette route côtière est la route 95. Elle arrive juste ici. C'est une route principale vers la Mésopotamie. Les Philistins ont donc raison sur ce point et ils vont donc bénéficier de tout le commerce qui va et vient de la Mésopotamie et de l'Égypte. Les Philistins encaissent. Ils sont donc dans une plutôt bonne position. Chaque fois que je vois Gaza, je me souviens que j'ai eu une conversation avec un juif et il m'a dit d'aller à Gaza. J'étais à Jérusalem et je ne comprenais pas pourquoi il m'avait dit d'aller à Gaza. J'essayais de comprendre pourquoi, j'ai dit au gars que je ne voulais pas aller à Gaza, je suis à Jérusalem, pourquoi voudrais-je aller à Gaza? Ensuite, j'ai demandé autour de moi et j'ai dit, c'était vraiment bizarre que ce type veuille que j'aille à Gaza, mais qu'est-ce que c'est? Gaza est considéré comme un endroit vraiment très chaud. Le type ne me disait pas vraiment d'aller à Gaza physique, il me disait d'aller dans un autre endroit très, très chaud. Je n'en avais aucune idée, j'essayais de comprendre ce qu'il voulait dire par Gaza. Je ne veux pas aller à Gaza parce qu'il me disait d'y aller. Permettez-moi d'utiliser un autre mot, Sheol. Il me disait d'aller en anglais dans ce qui serait un mauvais endroit. Ils utilisent Gaza pour faire ça, c'est un euphémisme quand vous dites à quelqu'un où aller, alors vous lui dites d'aller à Gaza. Mais est-ce que toutes les langues ont des idiomes comme ça? Les gens savent ce qu'ils veulent dire, mais si vous êtes un étranger, vous devez essayer de le comprendre. Ça n'a rien à voir avec Gaza, le gars vient de te dire d'aller au Sheol. Monsieur les Philistins et l'Arche 41, 39, 45, 47. Les Philistins s'emparèrent donc de l'Arche. C'est dans les chapitres 4, 5 et 6. Ils amènent l'Arche dans leur ville et placent l'Arche devant ce dieu Dagon. Dagon était à l'origine considéré comme un dieu poisson, mais ce n'est pas exact, c'est probablement soit un dieu des céréales, soit un dieu de la fertilité. Mais le dieu est fait de pierre. Il place l'arche devant ce dieu, et que se passe-t-il? Boum, le dieu tombe, renversé. Que font les gens? Le peuple entre et son dieu est tombé, presque prosterné devant l'arche. Alors ils choisissent leur dieu. Vous pouvez les voir mettre des clous dans les pieds du dieu pour s'assurer qu'ils se tiennent bien droit. Comprenez-vous l'ironie du peuple qui doit ériger son dieu? Ils ont créé leur dieu, et ensuite que se passe-t-il? Ils arrivent le lendemain, et le dieu est tombé maintenant, et il est tombé si fort que la tête est tombée et les mains ont été arrachées. Donc tout ce qu'ils ont, c'est ce torse de ce dieu brisé devant Dieu dans cette position presque d'adoration devant l'arche. Alors, que se passe-t-il avec l'arche? Il y a maintenant d'autres problèmes liés à l'arche, les fléaux. Partout où l'arche est prise, les gens commencent à mourir d'une peste, et les Philistins commencent à mourir de ville en ville. Alors, ce qu'ils ont commencé à faire, c'est d'expédier l'arche, ils l'ont transportée d'une ville à l'autre, mais partout où elle va, des gens meurent. Alors finalement les Philistins disent, il faut se débarrasser de cette arche, elle va nous tuer. Alors les Philistins disent, comment allons-nous rendre l'arche? Au chapitre 6, verset 4, les Philistins demandent, quel sacrifice de culpabilité devrions-nous leur envoyer? Ils répondirent, 5 tumeurs dorées, 5 rats dorés, selon le nombre des chefs philistins. Autrement dit, 5, pourquoi 5 tumeurs dorées? Pourquoi 5 rats dorés? Il y a 5 dirigeants des 5 villes de la Pentapole philistine, chacun d'eux ébranle donc un rat doré et une tumeur dorée. Au fait, vous souvenez-vous aussi de ce qu'ils faisaient avec les veaux? Ils prirent des vaches qui avaient des veaux et ils accrochèrent les veaux au chariot qui tirait l'arche. Normalement, les veaux font quoi? Si vous avez les mères vaches derrière vous, où iront les veaux? Les veaux retourneront-ils auprès de leur mère? Oui. Les Philistins dirent, nous verrons si cela vient vraiment de Dieu ou non. Si ces veaux montent la colline jusqu'à Jérusalem et remontent vers les collines vers les Juifs, alors nous saurons que cela vient de Dieu, mais si le chariot fait demi-tour, nous saurons que ce n'est pas grave. Devinez ce qui arrive à ces veaux. Zoomer, directement sur Beth Shemesh, directement sur le territoire israélien. Il sacrifie ensuite ses veaux au Seigneur. Mais pourquoi les tumeurs dorées et pourquoi les rats dorés? On pense que c'est ce qu'on appelle la magie sympathique. Les gens croyaient que les rats et les tumeurs étaient à l'origine des épidémies. Que associez-vous cela aux rats et aux tumeurs? Oui, la peste bubonique, la peste noire. On pense donc qu'ils ont fabriqué des modèles des tumeurs qui les tuaient et ils ont compris que cela avait été fait par des rats. Alors ils ont ensuite fabriqué ces modèles et les ont renvoyés. Si vous renvoyez les modèles, cela signifie que la maladie disparaîtra. C'est un peu comme le vaudou où vous prenez une poupée et vous la collez avec des aiguilles et cette poupée représente une personne. Si vous faites quelque chose de mal à la poupée, cela arrive à la vraie personne. Avez-vous déjà entendu parler de ce genre de choses? Donc je pense que c'est la même chose. Il renvoie les 5 tumeurs faites d'or, pour honorer Dieu. Il renvoie les rats et espère que la maladie les quittera. Ainsi l'arche s'en va, et les 5 villes philistines pratiquèrent une magie sympathique. Première victoire de Ebenezer et Samuel 45, 48-51, 08. Maintenant, Israël récupère l'arche. Mais Élie est mort. Ophni et Phinehas sont morts. Samuel prend le relais. Quelle est la première chose qu'il doit faire en tant que nouveau leader? Samuel doit remporter une victoire. Ainsi au chapitre 7, Samuel prend le relais et il remporte sa première victoire au lieu dit Ebenezer. Il dresse une pierre, Ebenezer. Quelqu'un peut-il voir le mot, Ezer? Est-ce que quelqu'un se souvient que nous avons déjà parlé des Ézères? Qu'avons-nous dit alors? Est-ce que quelqu'un se souvient que dans la Genèse, Ève était l'aide des Adam? La pierre de secours, qui est la pierre de secours d'Israël. Dieu est l'Ézère d'Israël. Samuel dresse donc cette pierre honorant Dieu pour les avoir délivrés à Ebenezer. C'est vraiment cool, Samuel a dit, rassemblez tout Israël à Mispa, et j'intercéderai auprès du Seigneur pour vous. Alors ils jeûnèrent et confessèrent, nous avons péché contre le Seigneur. Samuel est-il un bon leader? Il fait avouer son peuple avant de se battre. Alors ils dirent à Samuel, verset 8, chapitre 7, ne cesse de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous délivre des mains des Philistins. Alors ils partent au combat, Samuel va être en prière pendant qu'ils partent au combat. Il va intercéder pour eux. Ils partent au combat et il intercède auprès de Dieu, à qui cela vous fait-il penser? Oui, est-ce que quelqu'un se souvient de Moïse dans une structure similaire? Moïse intercède pour le peuple. Cependant, cela soulève un problème. Si vous partez du chapitre 7, verset 12, vous verrez comment Samuel nomme le lieu Ebenezer. Il y a un problème parce qu'au chapitre 5, deux chapitres plus tôt, il est dit, après que les Philistins eurent capturé l'arche de Dieu, ils l'emmenèrent d'Ebenezer à Ashdod. Mais supposons que je sois un critique biblique et qu'un critique biblique me dise, attendez une minute, vous avez ici une contradiction dans la Bible. La Bible dit qu'il a été nommé au chapitre 7, verset 12, lorsque Samuel a nommé cet endroit Ebenezer. Mais ici, vous revenez deux chapitres plus tôt, ce qui est probablement un peu plus tôt, des années plus tôt, et cela s'appelle Ebenezer ici au chapitre 5, verset 1. Ce n'est pas vrai, cela ne s'appelait pas Ebenezer au chapitre 5, vous devez attendre le chapitre 7, verset 12, jusqu'à ce que Samuel le nomme Ebenezer. C'est donc une contradiction dans la Bible et c'est une erreur dans la Bible. C'est ce que soulignent les critiques. Il est nommé au chapitre 7, verset 12, mais pourtant le nom Ebenezer a été utilisé deux chapitres plus tôt. Il est évident que l'historien s'est embrouillé et c'est une contradiction, et c'est une erreur dans la Bible. Savez-vous ce qu'est un anachronisme? Chronisme, voyez-vous là, chronisme. Chronisme. Est-ce que quelqu'un fait du grec? Chrono est, le temps. Chronologie, diriez-vous que, chronologie, signifie, temps. L'anachronologie signifie que c'est désynchronisé, c'est hors du temps. C'est ce que vous appelez, un anachronisme. Quand le livre de Samuel est-il écrit? Samuel est-il écrit beaucoup plus tard? Samuel est mort au chapitre 28, donc c'est écrit après la vie de Samuel. C'est écrit plus tard. Ce qui se passe ici, c'est que la personne qui écrit le livre regarde en arrière et appelle cet endroit, Ebenezer, parce que c'est ainsi que tout le monde à son époque l'appelle, Ebenezer. Ce serait donc comme ça. Si je vous disais, les sorcières, rappelez-vous que nous avions des sorcières à Salem dans le Massachusetts dans les années 1690. Et je vous ai dit, les sorcières ont été emmenées à Denver. Maintenant, vous savez tout où est Denver. Centre commercial Liberty Tree. Maintenant, si je disais, Denver, tout le monde saurait où cela se trouve. Question, est-ce que je viens de faire une contradiction? Oui, quand les sorcières ont été arrêtées, cela s'appelait Île Denver à cette époque. Non, mais si je vous disais, Salem Village, combien connaîtrait Salem Village? Presque personne. Donc ce que je fais, c'est l'appeler par son nom actuel juste pour que vous sachiez où il se trouve. Est-ce ainsi que l'histoire s'écrit tout le temps? Vous ne l'appelez pas par son nom d'origine, si vous disiez Salem Village, personne ne saurait où il se trouve. Donc ce que je dis, c'est que ce n'est pas une contradiction, c'est juste un gars qui écrit plus tard, il l'appelle comme tout le monde à son époque l'appelle, Ebenezer. Il raconte ensuite comment Ebenezer a obtenu son nom plus tard, mais il utilise le terme plus tôt. Est-ce une grande contradiction ou est-ce que nous faisons cela tout le temps? Oui. Ce n'est donc pas grave. Mais les critiques s'en emparent et disent, oh, vous voyez. Il y a une contradiction dans la Bible, elle n'a pas été nommée avant ce chapitre 7, mais elle a en fait été utilisée dans les chapitres 4 et 5. Vous dites, détendez-vous, si c'est la seule contradiction que vous avez des ennuis. Donc, l'anachronisme, certaines choses quand un gars écrit plus tard, il va utiliser les noms qui lui sont familiers, il va les remettre dans le récit. Ô les fils de Samuel et l'appel à un roi 51, 09-52, 51. Alors maintenant, quel est le problème? Samuel remporte sa première victoire, mais maintenant Samuel lui-même a un problème, et au chapitre 8, verset 3, il est dit, permettez-moi de commencer par le verset 1, quand Samuel fut devenu vieux, il établit ses fils comme juges d'Israël, le nom de son premier-né était Joël et son second Abija, et il servait à Beer-Sheva. Mais ses fils ne suivirent pas ses voies, ils se sont détournés après un gain malhonnête, ont accepté des pots de vin et ont perverti la justice. Qu'est-ce que le juge ne devait pas faire? Un juge devait établir la justice. L'autre chose qu'un juge ne devait pas faire était d'accepter des pots de vin. L'argent et la justice ne devaient pas être liés. Ses fils ont perverti la justice plutôt que de l'établir. Ils ont perverti la justice et accepté des pots de vin. Il est le dernier grand juge et il essaie de faire de ses fils des juges. Alors tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et vinrent trouver Samuel à Rama et ils lui dirent, « Samuel, tu es vieux, et tes fils ne marchent pas dans tes voies. Maintenant, nomme un roi pour nous diriger, comme l'ont fait les autres nations. Pourquoi Israël réclame-t-il un roi? Il réclame un roi parce que les enfants de Samuel ne valent rien. Les enfants de Samuel pervertissent la justice et acceptent des pots de vin. Les gens regardent ses fils et disent, « Samuel, tu es un gars formidable. Nous n'avons rien contre vous. Vous êtes une personne pieuse, tu es une bonne personne. Cependant, vos enfants sont tout foirés. Nous avons besoin d'un roi pour nous gouverner. » Alors ils réclament un roi et c'est ainsi que la royauté est introduite en Israël. C'est l'appel d'Israël à un roi à cause de l'échec des fils de Samuel. Paix sur les pères et les fils 52, 52-57, 31. Maintenant, sur les pères et les fils, faisons ici une petite revue. Élie était-il lui-même une personne plutôt pieuse? Élie semble être lui-même une personne assez pieuse, je veux y mettre un plus. Il aurait dû retenir ses fils, mais les fils d'Élie, Ophni et Phinehas, se révèlent méchants, si méchants que Dieu les élimine. Élie n'était pas une personne terrible, il était une bonne personne à bien des égards, mais ses fils étaient mauvais. Samuel est-il une bonne personne pieuse tous les jours de sa vie? Samuel est un gagnant. Pourtant, ses fils s'avèrent terriblement. Ils acceptent des pots de vin et pervertissent la justice. Alors, est-il possible d'être un bon père, une bonne personne, et que ses enfants se révèlent mauvais? Je pensais que si j'étais la personne idéale, mes enfants s'en sortiraient à merveille, vous savez, la pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Est-ce toujours vrai? Et ce type, Saul? Je vais essayer de vous montrer que Saul est un con, pour le dire crûment. Saul a de gros problèmes. Ce type est un con. Il essaie de tuer David à plusieurs reprises. Ce type est contre Dieu à bien des égards. Mais parlez-moi de Jonathan, le fils de Saül. Jonathan est-il l'étalon or? En fait, quand je cherchais des hommes pour épouser mes filles dans le cadre de ce mariage arrangé que j'avais en tête, je cherchais des hommes comme Jonathan. J'espérais que mes filles rencontreraient quelqu'un comme Jonathan, parce que ce type est un joyau. Au fait, de qui Jonathan était le meilleur ami? Il était le meilleur ami de David, les likes attirent les likes. Jonathan est juste une bonne personne. Jonathan est-il meilleur que son père? Son père a toutes sortes de problèmes à essayer de tuer des gens et David, Jonathan est un joyau. Donc voilà, tu as un mauvais père. Est-il possible d'avoir un mauvais père et que l'enfant s'avère génial? Oui. Et maintenant, qu'en est-il de David? Quel est le problème? David est-il l'homme selon le cœur de Dieu? David est l'homme selon le cœur de Dieu, mais David avait un problème avec Bethsabée et Uri. Donc David n'est pas parfait. David a un fils Salomon, et Salomon s'avère être le quoi? L'Einstein de l'ancien Israël. C'est l'homme le plus sage qui ait jamais vécu. David a donc un fils gagnant, mais qu'en est-il d'Absalom, l'autre fils de David? qui, Absalom, l'autre fils de David, a essayé de tuer. En fait, vous m'avez devancé. Il tue son autre frère et après avoir fini de tuer son frère Amnon, qui essaie-t-il de tuer. Absalom tente de tuer David, son propre père. Freud avait raison. Il essaie de tuer son père. Absalom tente de tuer son père. Donc Absalom était vraiment méchant. Ma conclusion est la suivante, chaque génération doit-elle apprendre à connaître Dieu par elle-même? Je peux connaître Dieu. Pourtant, mes enfants peuvent-ils rejeter Dieu? Est-ce que chaque génération doit venir, devenir sa propre personne et avoir sa propre façon de faire? Mon fils et moi en parlions l'autre soir. Il m'a prévenu. Il a dit, « Papa, quand ma génération accédera au poste de pouvoir, dit-il, tu ferais mieux de craindre pour ta vie. » Il était vraiment sérieux, je me suis dit, « Détendez-vous, vous allez mûrir. Votre génération mûrira tout comme nous, j'espère. » Il est vraiment négatif et n'est pas convaincu. Commentaire d'un étudiant, « Dieu a des enfants, mais il n'a pas de petits-enfants. » Ok, je vais le répéter, juste parce que c'est trop bon, Dieu a des enfants, il n'a pas de petits-enfants. Maintenant, je suis vraiment d'accord avec cela, chaque génération doit s'approprier Dieu pour elle-même et apprendre à connaître Dieu par elle-même. C'est vraiment important. Q l'appelle à 1 Roi 57, 31-62, 13. Maintenant, ils disent que nous voulons un roi. Était-ce une erreur de la part d'Israël, au chapitre 8 et suivant, de demander à Samuel un roi comme les autres nations? On m'a appris qu'Israël avait tort parce qu'il essayait d'être, comme les autres nations. Ils essayaient donc simplement de s'intégrer, de faire des compromis et d'être comme les autres nations, et c'était une erreur de leur part de demander cela. Cependant, c'est faux. Moïse dans le Deutéronome chapitre 17, à la fin de sa vie, il écrit le livre du Deutéronome. Moïse dit, « Vous aurez un roi, comme les autres nations », et il utilise exactement les mêmes mots. « Vous aurez un roi, comme les autres nations ». Depuis le Deutéronome, puis en passant par Josué et les juges, tous attendent la venue de ce roi. Moïse leur dit qu'il aurait un roi. Israël aura-t-il un roi? En fin de compte, toute cette histoire de royauté se dirige vers qui? Qui est le roi ultime d'Israël? David. David passe à qui? Jésus, qui est quoi? Le fils de David, roi d'Israël. Et il régnera pour toujours et à jamais. Ainsi, toute la question de la royauté se déplace vers David, puis vers Jésus-Christ, et le règne du Christ qui régnera sur Israël et sur le monde pour toujours. Ainsi, la notion d'établissement de cette royauté est dans le plan de Dieu. Est-ce quelque chose de mal qu'Israël ait demandé un roi? Non. Moïse a dit qu'il aurait un roi comme les autres nations, et maintenant il demande un roi comme les autres nations, exactement comme Moïse l'a dit. Maintenant, je suis d'accord avec vous qu'ils le font pour de mauvaises raisons. Mais la citation est qu'en d'autres termes, ils devaient s'attendre à un roi et à un prophète comme Moïse dans Deutéronome 18. Or, Israël avait des prêtres, les autres nations avaient elles des prêtres. Israël avait des prêtres et les autres nations avaient des prêtres. Ils avaient donc des prêtres comme les autres nations. Les autres nations avaient elles des prophètes. Nous avons vu Bilaam et certains des autres prophètes. Les autres nations avaient des prophètes, et Israël avait aussi des prophètes, comme les autres nations. Les autres nations avaient elles des juges. Comme les autres nations, Israël avait des juges. Il était donc normal qu'ils s'attendent à un roi comme les autres nations et Moïse leur a même dit qu'il aurait un roi comme les autres nations. Le problème qu'il fallait établir correctement n'était pas qu'il voulait un roi comme les autres nations, c'est le problème était qui était le roi d'Israël à cette époque. Le roi à cette époque était Dieu. Donc, en appelant à un roi comme les autres nations, le problème n'était pas qu'il appelait un roi parce que Dieu leur avait dit qu'il devait en attendre un, le problème était qu'il appelait un autre roi à la place de Dieu et en rejetant Dieu. Dieu a-t-il des sentiments? Je veux lire un verset ici, les sentiments de Dieu ont-ils été blessés? Regardez ceci, chapitre 8, verset 7, commencez par le verset 6, et quand ils dirent donne-nous un roi pour nous conduire, cela déplut à Samuel. Alors il a prié le Seigneur. Au fait, Samuel est-il blessé? Ses enfants n'étaient pas bons, n'est-ce pas? Ses enfants étaient mauvais. Alors ils viennent et disent, « Eh, Samuel, nous ne voulons pas de tes enfants, nous voulons un roi. » Est-ce que ça va blesser Samuel? Samuel va se sentir rejeté, rejeter sa famille. Alors Samuel va prier le Seigneur, et voici comment le Seigneur répond, « Regarde ça, c'est beau », et le Seigneur lui dit, « Écoute tout ce que les gens te disent. Ce n'est pas toi Samuel qui l'ont rejeté. Mais ils m'ont rejeté comme leur roi. Mais ils m'ont rejeté comme leur roi, voilà le problème. » Si Samuel se sentait rejeté, Dieu dit, « Samuel, ne te sens pas rejeté. Ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi. » C'est une déclaration assez forte de Dieu. Se rend compte que son peuple ne veut plus qu'il soit leur roi. C'est là le problème. C'est donc un beau verset où vous pouvez en quelque sorte voir l'intérieur de Dieu. R. Saul et le prophète / voyant Samuel 62:14-66:23. Maintenant, ils vont sortir et faire un roi. Quel est le premier roi qu'ils auront? Saül. Saül sort de la région de Rama, là-haut, et que fait Saül? Au chapitre 9, Saül poursuit les ânes de son père. Il parcourt les collines à la recherche de ses ânes, et finalement son serviteur dit, « Et, il se fait tard, nous sommes ici depuis longtemps, nous devons retrouver ces ânes. » Le gars dit, « Eh bien, je sais qu'il y a un voyant ici vers qui nous pouvons nous adresser et il nous dira où sont les ânes pour que nous puissions les trouver. » Ainsi, au chapitre 9, verset 9, il est dit, le serviteur lui dit encore. Regarde, il dit, j'ai un quart de sicle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu afin qu'il dite-nous quel chemin prendre. Autrefois en Israël, si quelqu'un allait consulter Dieu, il disait, viens, allons chez le voyant, c'est ce mot ro, le voyant, ce mot est important, parce que le prophète, le nabi, d'aujourd'hui, on l'appelait un voyant. Maintenant, que se passe-t-il avec ce verset? Permettez-moi de développer un peu cela. Il a dit ce qu'on appelle aujourd'hui un habit prophète, à l'époque où Saül poursuivait les ânes de son père, on l'appelait, le voyant. Qu'est-ce que cela nous apprend sur la date de rédaction du livre de 1 Samuel? Dans le livre de Josué, les événements de Josué, la traversée du Jourdain et la destruction des murs de Jéricho, ont-ils été enregistrés presque immédiatement? Ils sont là, jusqu'à ce jour, qui est vivant, jusqu'à ce jour, où le livre de Josué a été réellement écrit. Rahab la prostituée. Josué a dit, « Eh, tu ne me crois pas, va lui demander, elle est toujours en vie. Tu peux confirmer tout ce que j'ai écrit ici. » Rahab la prostituée et beaucoup de gens qui ont traversé le Jourdain, ils sont toujours vivants, parle-leur. Donc les événements historiques étaient ici et l'écriture était juste à côté, elle a été écrite au sein de la même génération que les événements décrits. Or, dans 1 Samuel, les choses ont-elles été écrites immédiatement? Samuel a-t-il probablement pris des notes? Samuel avait-il probablement un journal, des annales de Samuel? Oui, il l'a probablement fait. Mais ce livre a été écrit tellement plus tard que le langage avait en fait changé. Le prophète d'aujourd'hui était appelé le voyant. La langue change t-elle avec le temps? Mais au fait, faut-il du temps pour que le langage change? Donc ce que je suggère ici, c'est que les événements de 1 Samuel sont ici, mais l'écriture du livre est beaucoup plus tardive. Parfois, les événements se produisaient et étaient immédiatement écrits. Ici, est-il clair que le langage a eu le temps de changer? La langue anglaise change t-elle? Je demande combien d'entre vous, si je vous disais le mot « cassette », sauraient ce qu'est une « cassette ». Permettez-moi de remonter des générations en arrière, si je vous ai dit le mot « record ». Vous savez donc ce qu'est un disque vinyle. Lors de notre prochain voyage, est-il possible que vos enfants ne sachent pas ce qu'est un CD ou un DVD? Est-il possible que vos enfants ne sachent pas ce qu'est un CD ou un DVD, car tout se passe désormais dans le cloud? Donc, fondamentalement, les CD et les DVD ne sont plus pertinents. Donc je veux dire, vous avez quelques années avant que cela se concrétise, mais ces choses vont disparaître. Donc tout ce que je dis c'est que l'événement s'est produit ici, mais apparemment le langage a changé de sorte que le voyant de l'époque est maintenant appelé le prophète. le langage avait en fait changé, et l'auteur en fait le commentaire et dit que le voyant Ro est maintenant appelé le prophète, le langage avait tellement changé. S. Saül fait roi, sur l'orgueil et l'humilité 66, 24-72, 06. Maintenant, quoi est l'accent mis sur Saül? C'est à sa hauteur. Il fait une tête de plus que tout le monde, donc en gros Samuel dit ne t'inquiète pas pour ça, les ânes de ton père ont été retrouvés. Ne vous inquiétez pas, vous vers qui tout Israël se tourne. Saül dit attends une minute, je ne peux pas être roi, je suis de la tribu de Benjamin et la tribu de Benjamin est la plus petite tribu d'Israël et mon clan est le plus petit de Benjamin. À propos, est-ce que tout le monde savait pourquoi Benjamin était la plus petite tribu d'Israël? Parce qu'ils ont été presque anéantis à cause de la perversité. Alors Saül sort comme ça et dit ce genre de choses qu'il n'est pas digne d'être roi. Cela ressemble donc au chapitre 9, verset 21, Saül répondit, « Mais ne suis-je pas un Benjamite, de la plus petite tribu d'Israël, et mon clan n'est-il pas le plus petit de tous les clans de la tribu de Benjamin? Pourquoi me dis-tu une chose pareille? Qu'il va devenir roi. » Cela ressemble à de l'humilité. Combien de personnes humbles avez-vous réellement connues dans votre vie? Au fait, combien de personnes arrogantes ou fières avez-vous connues? Pouvez-vous voir la fierté et l'arrogance? La fierté et l'arrogance sont-elles vraiment faciles à repérer? Je pense à une personne fière que je connais, un sénateur du Massachusetts. Ma fille travaillait pour un sénateur du New Hampshire. Ce sénateur de masse venait parfois, et si jamais il avait un œuf sur le visage, il se rendait chez les gens qui travaillaient pour lui et les traitait comme de la saleté. Votre travail consiste à me faire bien paraître et j'ai mauvaise mine maintenant et vous êtes donc viré. Il les retirait parce que son visage était terni à cause de ces gens. Est-ce un signe d'arrogance? Vous êtes mes esclaves pour me faire bien paraître. Ma fille travaillait pour le sénateur Sunu dans le New Hampshire. Il y avait une dizaine de personnes qui travaillaient dans ce bureau. Un jour, le sénateur a été totalement humilié, une des filles du bureau a fait en sorte qu'il soit complètement aveuglé et passe pour un imbécile. Il avait des œufs partout sur le visage. Tout le monde dans le bureau savait que cette fille avait vraiment tout gâché. Maintenant, le sénateur entre dans le bureau, le grand sénateur, il y entre, effrayé et tremblant, tout le monde travaille sur son ordinateur, le regardant pour essayer de voir ce qu'il va faire. Le sénateur de NH se dirige vers le bureau de la fille qui a fait ça et en passant, à ce stade, elle dit « Ah, je sais que j'ai fait une très grave erreur. » Il se dirige vers le bureau de la fille et tout le monde est prêt pour un marteau. Tomber sur la tête de cette pauvre fille parce qu'elle a vraiment tout gâché. Tu sais ce qu'il a fait. Il s'approche de son bureau, s'approche d'elle directement, lui fait une blague et lui dit, « Vous savez, nous faisons tous des erreurs à certains moments de notre vie, ne laissons pas cela se reproduire. » Question, était-ce de l'humilité? Le grand sénateur aurait pu l'écraser et lui dire « Vous m'avez fait mal paraître » et aurait pu la critiquer très durement, au lieu de cela, c'était un gentleman. Était-ce quelque chose, pour lui, de faire ça, de dire, nous faisons tous des erreurs, et de mettre cela dans ce contexte, pour qu'elle puisse se détendre et réaliser son erreur? Je veux dire que ce type était humble. Comment faire la différence entre l'arrogance et l'humilité? Voici le chèque, si vous donnez du pouvoir à quelqu'un qui est fier, comment l'utilise-t-il? Si vous donnez du pouvoir à quelqu'un qui est humble, comment l'utilise-t-il? Une personne fière utilisera-t-il le pouvoir de manière très différente d'une personne humble? Une personne humble l'utilisera-t-il pour le bénéfice des autres? Une personne fière l'utilisera-t-il pour se renforcer? Parfois, je reçois toujours un coup de pied, les étudiants viennent vers moi et me disent, « Oh professeur, vous êtes si humble, et tout ce genre de choses. » Ensuite, je rentre à la maison et je parle à ma femme, et ma femme me dit « Tu es la personne la plus arrogante que je connaisse. » Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je crois ma femme ou les étudiants? Et bien sûr, les étudiants. Elle ne sait pas ce qui se passe dans le monde réel. Question, qui a raison? La vérité, c'est que ma femme. Elle me connaît. Elle me lit. Elle me connaît depuis 36, 7, 8 ans, plus longtemps que ça. Alors elle me connaît comme un livre. Alors dois-je écouter ce qu'elle dit? La fierté est facile à repérer chez quelqu'un d'autre, très difficile à repérer chez soi-même. Est-il possible que vous ayez connu des gens humbles et que vous les ayez juste croisés sans même vous en rendre compte parce qu'ils sont humbles et qu'ils sont simplement passés à côté d'eux? Maintenant, vous dites, et Saul, Saul semble humble. Je suis de la plus petite tribu de Benjamin, est-ce vraiment de l'humilité ou est-ce de l'insécurité? L'insécurité et l'humilité peuvent se ressembler extérieurement. Comment faire la différence entre insécurité et humilité? Si vous donnez du pouvoir à une personne peu sûre d'elle, comment l'utilisera-t-elle? Pour se renforcer. Si vous donnez du pouvoir à une personne humble, elle aidera les autres. Question, Saül manquait-il d'assurance ou était-il humble? Comment a-t-il utilisé le pouvoir? A-t-il utilisé son pouvoir pour s'en prendre à David? A-t-il utilisé son pouvoir pour s'en prendre au prêtre de Nab? Saul n'était pas une personne sûre d'elle. Alors ne vous laissez pas berner par cette pseudo-humilité, c'est vraiment de l'insécurité je crois. T'es Saül parmi les prophètes, Esprit de Dieu dans l'Ancien Testament 72, 07-82, 51. Maintenant, l'Esprit de Dieu vient sur Saül, au chapitre 10, verset 10, l'Esprit vient sur lui et que fait-il? Il commence à prophétiser. Il est dit, et lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, une procession de prophètes le rencontra, l'Esprit de Dieu vint puissamment sur lui, et il se joignit à leur prophétie. Quand tous ceux qui l'avaient connu autrefois le virent prophétiser avec les prophètes, ils se demandèrent entre eux, qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Alors l'Esprit vient sur lui. C'était l'Esprit de Dieu dans l'Ancien Testament. L'Esprit de Dieu était dans l'Ancien Testament et ses œuvres dotaient généralement des personnes comme les rois et les prophètes de dons spéciaux. En fait, lorsque l'Esprit de Dieu est descendu sur Samson, qu'est-ce que cela a fait pour lui? Cela l'a rendu grand et fort. Ainsi, l'Esprit vient et confère des dons dans l'Ancien Testament. Quand j'étais plus jeune, je pensais que l'Esprit de Dieu descendait dans le chapitre 2 des Actes. L'Esprit est-il descendu initialement sur la terre dans le chapitre 2 des Actes à la Pentecôte? Non. L'Esprit est dans l'Ancien Testament, il donne des dons spéciaux à diverses personnes, rois et prophètes. Dans le Nouveau Testament, l'Esprit est toujours là, mais l'œuvre de l'Esprit dans le Nouveau Testament est différente. Dans le Nouveau Testament, l'Esprit lie le corps du Christ, afin que juifs et gentils puissent former un seul corps. Ainsi, l'œuvre du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, dans le contexte du chapitre 2 d'Actes, lie le corps du Christ ensemble. Il s'agit donc simplement de changer l'œuvre de l'Esprit. Maintenant, Saül est fait roi trois fois. Ici, la deuxième fois, il monte à Mispa et ce sera une onction publique devant tout Israël. La première a eu lieu à Rameh avec Samuel, c'est une onction privée. C'est une sélection privée de Saül comme roi. Samuel et Saul étaient à un niveau personnel dans le contexte privé d'une maison. Or, à Mispa, Saül est mis dehors devant tout le peuple. Quand ils vont appeler Saul, où est Saul? Saül se cache. Il est mort de peur. On lui traîne la queue là-bas, on voit quelqu'un le sortir du bagage par la ceinture, et il se lève, une tête de plus que tout le monde. Au fait, voulait-il quelqu'un de grand et de fort? Oui, il devait les conduire à la guerre. Alors Dieu choisit ce grand homme fort et le sort du bagage pour le faire roi. Alors, que doit faire Saul? En tant que nouveau leader, il doit remporter une victoire. Il passe à Jabesh-Galad et bat les Ammonites. Où se trouve Jabesh-Galad? C'est de l'autre côté du Jourdain. Quelqu'un a-t-il établi un lien avec Jabesh-Gilead? C'est la première victoire de Saül sur les Ammonites à Jabesh-Galad. Est-ce que quelqu'un se souvient de Jabesh-Galad? C'est une question à $1 million, la dernière période, personne ne l'a compris. Quand les Benjamites étaient tombés à 600 hommes, et que la majorité des Benjamites ont été tués, où ont-ils trouvé des épouses pour les Benjamites restants? Jabesh-Galad. Est-il probable que la grand-mère de Saül soit originaire de Jabesh-Galad et qu'il retourne y défendre parce que c'est de là que viennent ses racines familiales? Maintenant, je ne le sais pas, mais il est tout à fait logique de savoir pourquoi il irait à Jabesh Gilead et les protégerait. Saül protège donc Jabesh Galad. La troisième fois que Saül est fait roi, c'est lors du renouvellement de l'alliance à Gilgal. C'est vraiment important à Gilgal. Ils descendent à Gilgal. Est-ce un lieu saint? C'est près de Jéricho. Ils traversèrent le Jourdain et allèrent à Gilgal et la manne s'arrêta, la circoncision, ils firent leur troisième Pâque à Gilgal. Alors maintenant, ils vont à Gilgal et y renouvellent l'alliance. C'est un concept vraiment important. Lorsque Moïse a transmis la succession à Josué, que fait Moïse? Il écrit le livre du Deutéronome comme un renouvellement d'alliance disant que le pouvoir va être transféré de Moïse à Josué. Alors que la succession du pouvoir va de Moïse à Josué, ils doivent se réengager envers Dieu à travers un renouvellement de l'alliance. À la fin du livre de Josué, il va le transmettre aux juges. À la fin de ce livre de Josué, devinez ce que vous avez dans Josué 24, il y a une cérémonie de renouvellement de l'alliance. Alors que Josué disparaît, il passe à la nouvelle génération, qui se réengage envers l'alliance. Maintenant, que se passe-t-il ici? Samuel, le dernier des juges, passe à la royauté, et comme il y a une succession entre les juges jusqu'à ce nouveau roi ou de la théocratie à la monarchie, ainsi il y a le renouvellement de l'alliance à Gilgal, un renouveau de la relation. Au fait, ce collège traverse-t-il actuellement une transition successorale? De Jude Carlberg, président pendant de nombreuses années, à Michael Lindsay, le nouveau président. Chaque fois qu'il y a une transition de pouvoir, cela devrait-il être le moment où il y a un réengagement envers Dieu dans la relation. C'est donc plutôt intéressant avec l'alliance de renouvellement. Maintenant Samuel répond, et sa réponse ici est très intéressante au chapitre 12, verset 3. Samuel dit, « Me voici. Témoignez-moi devant l'Éternel et son oint, à qui ai-je pris le bœuf? À qui ai-je pris l'âne? Qui ai-je trompé ?» Samuel se lève devant tout le monde et dit, « Et, est-ce que je t'ai volé quelque chose? Est-ce que je t'ai pris quelque chose, trompé quelqu'un dans tout cet endroit? » Ils disent tout, « Non, vous avez été un bon leader. » Est-ce un très bon commentaire sur Samuel? Il dit ceci à la fin du chapitre 12, verset 23, « Quant à moi, loin de moi l'idée de pécher contre l'Éternel en ne priant pas pour vous. Je t'enseignerai de la manière qui est bonne et juste. » Samuel considérait-il comme un péché s'il ne priait pas pour ces gens? Il a dit, « Je ne suis plus au pouvoir maintenant, je n'ai plus le pouvoir, le nouveau roi va prendre le relais, mais je dois prier pour vous. Combien d'entre vous prient pour vos dirigeants? Combien d'entre vous prient pour Michael Lindsay alors qu'il dirige cette institution? J'installe un truc quand j'entre dans Frost Hall, j'oublie tout, alors je fais des petits marqueurs. Ainsi, lorsque je franchis la porte de Frost, je me souviens de prier pour trois personnes, Michael Lindsay, Dan Timan qui est un autre de mes héros, et Bruce Webb. Bruce est membre du corps professoral d'ici depuis plus de 30 ans et il est atteint d'un cancer de stade 4. Savez-vous ce que cela signifie? Cela signifie qu'il appartient à l'histoire. Je prie pour Bruce en y entrant. En fait, juste avant de venir donner ce cours, je lui parlais. Vous devez prier pour les gens et vous avez besoin de déclencheurs. Samuel dit, loin de moi l'idée de pécher et de ne pas prier pour vous, et donc prier pour les autres est vraiment très important et Samuel a joué ce rôle. Maintenant, qu'est-ce qu'un Samuel 13? C'est quelque chose que vous pouvez rapporter à vos parents pour montrer à quel point vous êtes intelligent et ainsi ils peuvent se mettre en colère contre Gordon. La version King James dit, Saül régna un an, puis il régna 2 ans sur Israël. Est-ce que quelqu'un se souvient que nous avons commencé le semestre avec ça? Vous vous souvenez que l'ancien As dit que, Saül avait 40 ans et régna 32 ans sur Israël, et si différent du roi Jacques. Saül fut un an puis 2 ans sur Israël. Au fait, le King James doit-il se tromper? Ce verset est stupide, il a régné un an puis 2 ans puis 3 puis 4. La NIV va dans l'autre sens, la NIV et la NLT disent, Saül avait 30 ans lorsqu'il commença à régner et il régna 42 ans sur Israël. Est-ce différent aussi? L'ancien NASB dit entre 40 et 32 et le NIV dit entre 30 et 42. Voici le NRSV et le SV. Le SV était malheureusement un singe du RSV, et ils disent Saul avait, en Zérénier, en. Que vous disent le NRSV et le SV? Le numéro a disparu. Maintenant, comment cela affecte-t-il votre vision de l'inhérence de l'écriture et de l'inspiration de l'écriture? Le numéro a disparu. Personne au monde ne le sait. Personne vivant actuellement que je connais ne le sait. Quelle est la vision de l'inspiration? Cela affecte-t-il notre vision de l'inhérence et de l'inspiration de l'écriture? Non. Qu'est-ce que l'inspiration a à voir? L'inspiration a à voir avec Dieu parlant au prophète et le prophète l'écrivant. Le prophète l'a-t-il bien écrit? Oui, il l'a fait. Ce qui s'est passé. Il est copié encore et encore. Est-ce un problème de scribe? C'est un problème de scribe. Les scribes étaient des êtres humains qui copiaient la parole de Dieu pendant 1000 ans. Les scribes ont donc eu des problèmes. Est-ce un problème d'inspiration? Non. L'inspiration a à voir avec le fait que Dieu parle au prophète et que le prophète l'écrit. Il s'agit d'un problème de transmission, d'un problème de scribe où le texte est copié encore et encore. Cela suggère donc qu'il y a des problèmes de transmission dans la Bible. Dieu veut-il que nous adorions la Bible, ou Dieu veut-il que nous l'adorions? Alors c'est tout. Merci d'être resté et passez un excellent Thanksgiving et salutations à vos parents, frères et sœurs et j'espère que vous passez tous un excellent Thanksgiving. Prends soin de toi. Transcrit par Cheristo Alofé et Beth Crandall. Brut édité par Ted Rildebrandt II.